Ici Andrew McInerney, directeur artistique du Studio de musique en scène de Montréal. Il me fait plaisir de vous présenter les entretiens pré-concert de notre saison 2018-2019.
Bonjour, je suis Suzy Leblanc et j'aurai le plaisir de diriger le concert du 8 mars avec le studio de musique ancienne L'Italie baroque au féminin.
Bonjour, je suis Rebecca Bain. Je suis la directrice de l'ensemble vocal féminin Ensemble Scholastica à Montréal.
Alors, parle-moi du concert du 8 mars prochain.
Eh bien, le 8 mars prochain, il y a un concert très spécial au studio de musique ancienne parce que c'est un concert, évidemment, en l'honneur de la femme, étant le 8 mars. Et comme on sait, la femme prend de plus en plus de place dans tous les domaines en ce moment. On le sait parce que c'est 2018 et plus.
Oui.
Mais donc, Andrew McInerney, le directeur artistique du studio, a voulu vraiment valoriser non seulement les compositrices féminines de l'époque baroque, mais aussi les interprètes féminines d'aujourd'hui à Montréal.
Super! Ouais. Alors, de quel répertoire s'agit-il pour ce concert?
Bon, c'est un répertoire surtout sacré, parce que c'est un répertoire qui provient des couvents en Italie au 16e et 17e siècle. Alors, c'est sûr que parfois, ils prenaient des madrigaux, puis ils arrangeaient le texte pour que ce soit plutôt sacré. Mm-hmm. Mais la plupart des pièces, c'est vraiment des textes religieux, des textes que les religieuses aimaient beaucoup, par exemple, des textes à la Vierge Marie, et qui disent « Je suis l'épouse du Christ », tout ça. Donc, c'est une musique qui est instrumentale et vocale. On va voir 9 chanteuses et 9 instrumentistes sur scène. Et puis, c'est une musique que je dirais très savante, parce que c'était des religieuses qui avaient quand même étudié la musique. Elles venaient très souvent des familles nobles, parce que c'est ces familles-là qui payaient, d'ailleurs, pour que le couvent éduque leurs jeunes filles. Donc, c'est une musique qui a été faite par des gens qui sont cloîtrés, mais leur musique n'était pas cloîtrée. Elles étaient publiées de leur vivant, tout ça.
Okay.
Donc, je dirais que c'est une musique absolument savante et complexe et très, très belle en même temps.
Et pourquoi présenter ce répertoire? Pourquoi aussi n'est-il pas plus connu?
Ah oui, ben, il n'est pas très connu parce que ça fait quand même pas très longtemps qu'on a fait des études et qu'on a retrouvé... Leur musique était quand même publiée, mais il faut faire des recherches. Très longtemps, les choses restent dans la poussière, dans les bibliothèques. Et donc, ça a pris un certain temps avant qu'on s'intéresse et qu'on se rende compte que ce répertoire existait.
Donc, on connaît déjà de l'époque d'autres musiques italiennes, mais ce répertoire-là est vraiment quasiment inconnu.
Tout à fait. Puis par exemple, on connaît même Barbara Strozzi un peu plus, qui a fait beaucoup de musique profane.
Oui.
Et on connaît un peu Francesca Caccini pour les mêmes raisons. Mais toute la musique des religieuses, des couvents, était vraiment encore cloîtrée, si on peut dire. Et puis là, il y a eu des recherches. Il y a un ensemble que je dois mentionner, Cappella Artemisia, qui est à Bologne, en Italie, qui a fait beaucoup d'enregistrements pour faire connaître ces femmes. Alors, déjà, il y a des choses qui commencent à sortir. Et il y a de plus en plus de publications modernes, donc des éditions modernes, des partitions, ce qui facilite évidemment la tâche. Mais il y a beaucoup, beaucoup de musique de ces couvents. C'est pas comme un petit corpus là, de 30 pièces qu'on va faire et tout le monde va être content.
Oui,
il y en a des centaines.
Oui. OK. Alors, dans quel contexte est-ce que cette musique a été présentée? Est-ce que c'était une musique qui était chantée par les religieuses pour elles-mêmes, pour leur liturgie? Ou est-ce qu'il y avait aussi... est-ce qu'elle faisait des concerts?
Oui, il y avait les deux. C'est-à-dire que c'est sûr qu'elles chantaient beaucoup pour leur propre liturgie. Et on dit qu'elles chantaient plus qu'elles faisaient n'importe quelle autre activité, même dormir. Donc, elles chantaient vraiment toute la journée.
Wow.
Et elles organisaient des concerts. Là, il y a une chose intéressante, c'est qu'à l'époque, il y avait ces couvents et il y avait aussi une musique savante qui se faisait à la cour, dans plusieurs duchés de l'époque. Et puis, le commun, le peuple, l'habitant, lui, n'était jamais invité à entendre la musique savante dans la cour. Ça, c'était pour les nobles.
Oui.
Mais il avait le droit d'aller entendre les religieuses chanter. Et à ce moment-là, les gens pouvaient... C'était leur musique. Les gens allaient beaucoup l'entendre. Puis, les religieuses faisaient des concerts parce qu'on a... On a des écrits qui disent justement qu'elles étaient 50 parfois à faire de la musique ensemble, puis elles jouaient des violons, du cornetto, du clavecin.
Elles jouaient tous les instruments aussi.
Tous les instruments aussi. Elles dirigeaient. Donc, en fait, elles avaient peut-être été enseignées par des hommes, mais elle, elle dirigeait, elle faisait de la grande musique à elle seule, dans des contextes justement comme parfois des vrais concerts. Et donc, il y avait des reines, la reine d'Autriche est d'ailleurs venue les entendre, elle voulait en ramener avec elle. C'était une des attractions touristiques les plus importantes de l'Italie de l'époque, la musique des couvents.
Et est-ce qu'on parlait vraiment de la qualité de leur voix, par exemple? C'était des bonnes chanteuses?
Oui, aussi. Oui, surtout certaines, évidemment, qu'on signalait comme étant exceptionnelles. On parlait aussi du fait qu'il y en avait qui jouaient et qui devenaient en transe et qui improvisaient et qui s'accompagnaient. Alors vraiment, c'était pas des novices au niveau musical, c'était des gens très instruits.
Et d'après tout, elle chantait toute la journée, tout le long de la journée.
Ben oui, forcément. Puis on mentionne aussi que dans leur chambre privée, elles avaient parfois des instruments. Elles pouvaient avoir un clavecin ou un orgue même dans leur chambre. Alors, chanceuse.
Chanceuse. Alors, parle-nous un peu plus de qu'est-ce qu'on va entendre le 8 mars pendant votre concert.
Oui, ben, on va présenter dans la première partie à peu près 5 ou 6 compositrices pour faire un éventail des différentes. Puis en fait, il y en a une qui est même vraiment, son œuvre a été publiée en 1543, donc ça c'est la plus tôt. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, ça va être des vêpres. Mais des mini-vèbres, parce que c'est seulement 35 minutes, une deuxième partie à peu près, avec des motets et des pièces instrumentales intégrées entre les mouvements, comme le Dixit Dominus et puis des mouvements comme ça. Donc, on termine évidemment avec un Magnificat. Et les vèbres, ça va être de Margarita Cozzolani, mais il y a aussi du Caterina Assandra, Isabella Leonarda. Il y aura des mouvements de d'autres compositrices.
OK. Donc, tous les noms des compositrices, on les connaît.
Oui, il n'y a pas d'anonyme, en fait, dans ce concert. C'est vraiment des religieuses. Et on publiait sous leur nom de religieuses.
Et les musiciens, les chanteuses sur scène, c'est donc que des femmes.
Donc, c'est que des femmes. Donc, il y a 9 chanteuses qui chantent avec le studio de musique en scène normalement. Et aussi des instrumentistes qui ont toujours joué avec le SMAM et quelques nouvelles aussi. Donc, ça, c'est vraiment très, très excitant. C'est l'aspect formidable, c'est qu'on a beaucoup de talent féminin en musique ancienne à Montréal.